Le test AVMA, c'est pas forcément essentiel avec un protocole classique. Le temps de maintien AVMA, je l'ai conçu en 94. Première idée, c'était de me dire que deux personnes qui avaient la même VMA, est-ce qu'ils avaient la même capacité à durer? Et donc là, j'ai démontré que ben, deux personnes qui ont une VMA de 20 km/h, eh bien, il y a une personne qui peut tenir 3 minutes et l'autre qui est capable de tenir 12 minutes. Ce temps limite AVMA dépendait de la. Donc si la barrière, c'est le côté musculaire, là, partez sur des séries de 2 fois 10 minutes, 2 fois 20 minutes. Et puis si on veut travailler le côté volume d'éjection systolique, on va plutôt faire des 3 minutes à 95% de VMA. C'est ce qu'on a fait avec notre centenaire, c'est-à-dire on peut prouver que tant qu'il y a de la vie, ben, on peut augmenter VO2 max.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. C'est le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nouveau à la VO2 max, mais par contre, on a vraiment la chance, l'honneur, je pense qu'il va manquer des superlatifs. On va recevoir vraiment une experte du sujet aujourd'hui, même si on a déjà reçu des experts par le passé. Là, aujourd'hui, on a vraiment énormément de chance de recevoir Véronique Bia, que je vais laisser se présenter par la suite. Donc, on va parler de la VO2 sous l'entraînement. On va voir aussi, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec la longévité ou pas. On verra les tests. Est-ce qu'il faut faire forcément un test en laboratoire? Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas se tester? Et bien sûr, on verra tout sur l'entraînement pour améliorer cette VO2. Mais on verra, est-ce que c'est forcément que ça? Est-ce qu'il n'y a que la VO2 qui dépend de la performance? Donc, un podcast très complet, accompagné de Vincent de la team 1000%. Comment ça va, Pacton?
Je suis très, très content d'être là. On va se régaler avec Véronique. Dis-nous tout. On est passionné et t'es passionnante. Donc, on est très content d'être là.
On va laisser se présenter à Véronique. C'est combien d'articles scientifiques publiés, Véronique?
Alors, moi, il y a un truc, c'est que je regarde jamais derrière parce que
Il faut pas.
ça me fatigue. Non, je vis vraiment l'instant présent, en fait. C'est assez drôle parce que je suis dans l'instant présent et dans les grands objectifs, dans les grands rêves. Le truc moyen, c'est. Alors, derrière, surtout pas. Et ça, je suis une optimiste résolue. J'ai une force incroyable parce que, en fait, c'est ce que je dis à mes élèves, il faut être passionné dans quelque chose. De n'importe quoi d'ailleurs. Qu'il fasse pas de mal aux gens, bien sûr, hein, pas être passionné de Kalachnikov. Mais si on est passionné, ben on passe la vie. J'ai rien vu passer, moi. Ça fait 40 ans que je travaille là-dessus. Franchement, j'ai rien vu passer. Voilà.
Est-ce que vous pouvez vous
Sauf
présenter, Véronique?
ben, j'ai quatre chiens, enfin cinq chiens qui sont passés successivement. Donc j'ai eu 5 vies de chiens, mais. Moi, ça, la mienne de vie, elle a passé trop vite, quoi. J'ai rien vu. Je me suis bien amusée, puis je m'amuse toujours. Puis merci encore. Ce que vous faites, ça donne tout le sens de mon travail. Parce que vous savez, c'est pas les articles qui comptent. Ça, c'est une certaine légitimité. Ce qui compte, c'est que ce soit utile. Franchement, les articles scientifiques, il y en a plein, plein, des tonnes. Et est-ce que c'est utile? Et c'est toujours la question que je me pose, et moi je crée parce que je me décale à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Voilà. Faut trouver un juste milieu entre la remise en question et le blocage, et renier tout. Voilà.
Véronique, tu nous dis que tu vis dans le moment présent et que tu es une passionnée.
Ouais.
Qu'est-ce qui en ce moment te passionne, Véronique?
Bah en ce moment, ce qui me passionne, bah c'est d'être avec vous. Je me demande des questions. Je me demande ce que vous allez me demander. Ce qui me passionne en ce moment, c'est effectivement, je suis en train de travailler sur le concept de cerveau de max. c'est de constater que l'être humain arrive à optimiser ses vitesses de course de façon, je dirais, naturelle. J'aime pas dire instinctif parce que c'est quand même, ça se passe dans le cerveau. Et j'essaye de comprendre comment on arrive à optimiser. Avant, j'étais un petit peu à la recherche d'une modélisation de la signature énergétique du marathonien qui serait optimale avec des variations de vitesse optimales par rapport à son profil énergétique. Mais je pense que je me trompe en fait. Je pense qu'à chaque instant, on est un peu quantique, on a des choix. À chaque instant, on peut choisir d'aller plus vite sur une petite distance au cours du marathon, par exemple, d'accélérer sur une petite distance ou bien d'aller un peu moins vite sur une plus longue séquence. Et je pense que cette décision-là, elle est à l'instant présent, justement, et qu'on est capable de gérer notre réserve d'énergie, on le ressent et on arrive à régler dans l'instant. Donc j'aimerais aller un peu dans cet aspect-là et vers des modélisations telles de mathématiques quantiques qui permettent d'explorer toutes les voies en même temps pour faire pour parce que bientôt il y aura les ordinateurs qui seront capables de le faire et donc remplacer des bits par des qubits. Et est-ce que voilà, il faut qu'on soit prêt. C'est un petit peu comme l'IA, enfin, c'est d'être prêt à bien l'utiliser. Moi, je l'apprends à mes élèves à bien l'utiliser. Et voilà, utiliser les nouvelles technos pour libérer notre pensée et se faire confiance. Parce qu'en fait, ça revient à ça. On se dire, on n'a besoin de rien si ce n'est de se faire confiance, d'aller courir et basta, quoi. Donc, je suis dans mon obsolescence programmée.
Super.
Voilà.
Merci et bonne quête. Donc, Véronique, par rapport au sujet d'aujourd'hui, on voulait vraiment parler de la VO2 max. On a eu pas mal de sujets à propos de ce thème-là, que ce soit sur la performance, la longévité. Déjà, est-ce que pour nos auditeurs, on pourrait brièvement redéfinir la VO2 max et parler aussi de son importance?
C'est assez simple en fait. Nous, on a un moteur hybride qui a la particulier d'avoir un moteur thermique, comme une voiture hybride. Hein. C'est la capacité à oxyder l'essence. Nous, c'est les hydrates de carbone ou les lipides, avec de l'oxygène et de rejeter du CO2 dans notre gaz d'échappement, la bouche. Avec des mécanismes. Tampon si on va un peu vite. Après, on a deux moteurs électriques d'appoint. On a un moteur électrique à haute puissance et petite capacité, c'est effectivement la puissance anaérobie galactique. Mais tout est synchrone, hein. On est dans vraiment un moteur synchronisé. Et on a un moteur électrique à plus grande capacité et moins grande puissance que celui dont je viens de parler, qui est le métabolisme anaérobie galactique. Donc, la synchronisation, en fait, le moteur thermique, c'est donc VO2 max, c'est la puissance max de ce moteur thermique qui va conditionner un petit peu la recharge des deux autres moteurs, à savoir c'est l'oxygène qui recharge la créatine phosphate du moteur anaérobie galactique à haute puissance et petite capacité, et c'est l'oxygène qui recycle le lactate, et donc qui recycle le lactate et qui permet au lactate de redevenir d'acide pyruvique et d'être incorporé dans le cycle de Krebs, donc d'être utilisé, sachant que le lactate est très très bien apprécié par le cœur et le cerveau. Les astrocytes, les cellules du cerveau, adorent le lactate. Donc, je dirais, c'est un moteur hybride à haute synchronicité, et notre travail à nous, physiologistes de l'exercice, qui partons du terrain, parce que moi au départ j'étais quand même entraîneur, j'ai fait STAPS, B1, BE2, BE3 en athlétisme. J'ai fait de la course à pied et du ski de fond en équipe UE. Donc, c'était des questions de terrain qui m'ont amené à faire un doctorat, etc., etc. Je suis pas une scientifique pour faire de la science. Donc, en fait, mon travail, c'est effectivement d'aider les coachs à déjà évaluer le moteur, les différents moteurs, l'harmonie du moteur hybride. Et puis de faire un profil énergétique de ce moteur hybride pour essayer de déjà d'augmenter la puissance des moteurs, notamment le moteur thermique, dont on a vu qu'il était le chef d'orchestre, un petit peu la ressource de base, parce qu'on est quand même des êtres endurants. Quand on regarde la courbe vitesse-temps, un marathon, on court à 20, 21 à l'heure. Le record du 100 mètres, c'est 40 à l'heure, un peu moins. On perd deux fois de vitesse pour 700 fois, 720 fois plus de temps. Donc on a vraiment une hyperbole, ce qu'on appelle la vitesse critique. Donc on est des êtres aérobies quand même, mais avec, comme on est des proies et des prédateurs, bon des fois il faut échapper à une proie, et parfois il faut aller faire de la prédation avec l'endurance et tuer des animaux plus rapides que nous, mais moins endurants, moins aptes à thermoréguler. Parce qu'ils ont des poils, nous on thermorégule, voilà, on s'évapore, on a plein de mécanismes de thermorégulation. Donc en fait, VO2 max, pour répondre à Vincent, je te laisse la parole Vincent, c'est le moteur thermique, la cylindrée, la puissance max du moteur thermique, et qui va conditionner le reste.
On a parlé beaucoup de VO2 max, donc nous 1000%, on cherche à s'améliorer dans la performance, dans la santé, dans la longévité, à comprendre. Cette VO2 max, elle est revenue souvent. Je te pose la question tu as dédié ta vie à cette valeur, à cette VO2 max. Mais est-ce que le concept de VO2 max ne serait pas trop simpliste pour expliquer la complexité de notre production d'énergie qui est liée à notre ventilation, à notre transport d'oxygène, à notre travail mitochondrial et plus encore, tu parles même de notre intention mentale. Est-ce que ce serait pas trop réducteur de parler juste de VO2 max?
En fait, VO2 max, c'est un résultat. C'est un combo de tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, VO2 max, il peut être limité pour les athlètes de haut niveau, comme pour les chevaux de course, par la ventilation. À un moment donné, quand tu arrives à des 5 litres minutes de VO2 max, avec des ventilations, parce que pour un litre d'oxygène, on ventile 40 fois plus. Donc, des ventilations de 200 litres minutes. Ça coûte cher pour le diaphragme, il consomme de l'oxygène, les muscles intercostaux, enfin, t'es kiné, donc voilà. Donc il y a une compétition entre les muscles squelettiques et les muscles de la ventilation. Donc, les athlètes de haut niveau ont développé une tolérance au CO2. Ils tolèrent une augmentation de la pression de CO2, qui est le corollaire justement du métabolisme aérobie, de la casse du sucre, du rejet de CO2. Il y a un CO2 en excès. Et ils se laissent envahir par le CO2, ils tolèrent, pour éviter d'hyperventiler. Donc eux, la limite, c'est la ventilation. La deuxième barrière, pour les gens moins entraînés, c'est le débit cardiaque, donc l'étape circulatoire, la pompe cardiaque, qui doit envoyer un max de sang très vite par le ventricule gauche pour réoxygéner tous les territoires de l'organisme, en fonction de leurs besoins. Et ce volume d'éjection à chaque contraction du cœur, du ventricule gauche, qu'on appelle le volume d'éjection systolique, il est conditionné par le muscle du cœur, le myocarde qui entoure le cœur, et par la grosseur, le volume de la cavité du ventricule. Ça s'améliore avec l'entraînement. Et c'est la barrière plutôt des gens pas vraiment bien entraînés. Enfin, moyennement, genre des VO2 à 50 minutes, minute, kilo. Alors que la ventilation, ça va concerner les VO2 supérieurs à 72, 73 minutes, minute, kilo. Et la troisième barrière, c'est le muscle. Ouais, ok, le cœur a fait son job, la ventilation, ok, le sang arrive bien riche en oxygène au niveau des muscles. Et puis, c'est ce qu'on appelle le facteur périphérique de VO2 max. Bon, le sang passe dans les muscles, et si le muscle n'est pas assez équipé en enzymes oxydatives, en mitochondries, pas assez riche en capillaires qui entourent la fibre musculaire, il va laisser passer le sang oxygéné. Il va pas l'utiliser, il va en rejeter un max dans les veines, max d'oxygène dans le contenu veineux. Donc ce qui compte, c'est la différence artérielle veineuse. Voilà, ça c'est la partie limitante de VO2 max musculaire. Et puis après, ça revient au cœur par le côté droit et ça repart dans la petite circulation vers le poumon. Donc ces trois barrières, elles peuvent être limitantes de VO2 max, mais VO2 max, tu as raison. C'est pas que ce soit trop simpliste, c'est une synthèse. C'est un résultat de différents facteurs limitants. Et après, effectivement, au niveau du cerveau, le truc ultime, c'est bah, j'ai pas envie, quoi, je vais lâcher l'affaire. Donc on a des ondes cérébrales alpha, bêta, Et à un moment donné, la puissance spectrale, donc la puissance du moteur cérébral à l'effort, elle est défaillante, on lâche l'affaire. Ça peut être parce que, bon, on est, enfin, alors ça, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on lâche l'affaire. Tu vois. Donc, ça fait partie de mes nouvelles pistes de travail, de travailler sur l'approche simultanée de toutes les barrières limitantes dont je viens de parler. C'est pour ça que moi, je mesure le débit cardiaque, le volume d'éjection systolique avec des appareils qu'on a aidés à mettre au point par impédance-métrie pour éviter de me mettre un cathéter flottant au niveau de l'aorte. Donc, bon, méthode Sanklin de référence. Donc, nous, on est très bon chez Nouvelle Techno parce qu'on veut explorer toutes les causes dont tu viens de parler pour pas effectivement se limiter à la mesure du VO2 max et dire, OK, allez dans les causes parce que tu vois, vous voyez, dans chaque cause, il va y avoir une solution de high intensity interval training. C'est-à-dire, à chaque barrière limitante, on va trouver un intervalle qui va permettre, d'être training qui va permettre de lever cette barrière. Voilà, c'est ça notre travail. Et d'aider le coach à le faire en fonction de ses desiderata, ses prérequis. Tu vois, là, j'ai eu un, puis je terminerai là-dessus, j'ai eu un cycliste de haut niveau, un élite, hein, à 18 ans, qui est au port de l'équipe de France. Bah, le coach, c'est un ancien boss du raid, donc un gars très branché sport, il a lu tous les bouquins, etc. Et il voulait avoir toutes ses zones d'entraînement. Bah, je vais pas embêter, moi, avec mes concepts. J'ai déterminé toutes ces zones d'entraînement. Voilà. Et derrière, bon, bah, ça n'empêche pas, il faut laisser aussi aux gens le temps de faire un chemin et, tu vois, pas vouloir imposer ses vues. Là, je t'ai évoqué les barrières limitantes. Et moi, mon travail, c'est de les lever. Mais que si les coachs sont branchés là-dessus. Voilà.
Justement, on va en parler de la partie test et de la partie entraînement à la fin. Donc, si vous voulez avancer directement à cette partie-là, vous pourrez, il y a des chapitres. N'hésitez
Non,
pas à
moi, je
liker.
réponds aux questions.
Bien sûr, on en reparlera après, bien sûr. Mais c'est vrai que pour la VO2 max, on entend beaucoup parler du plateau de VO2 max. On entend beaucoup parler aussi de son aspect génétique. Que penser? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette notion-là. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire vis-à-vis de ça?
Alors déjà, première question, là, tu me donnes deux gros serpents de mer à résoudre. Oui, j'ai pas peur des serpents de mer. Donc première question, c'est plateau. Alors effectivement, tu vois, le plateau du VO2 max, c'est un résultat d'un test. Dont ce test, il a un protocole. Le test de Vameval, par exemple, où on augmente la vitesse par palier. D'accord? C'est ce qu'on appelle un test triangulaire. À l'issue de ce test, les physiologistes s'accordent à dire que s'il n'y a pas de plateau, bah le test, on peut juste dire que c'est un VO2 pic. Il faut absolument avoir un plateau pour dire on a atteint un VO2 max. Bon, déjà, première réponse, mais un jour j'ai eu l'idée tordue de faire un test, tout ça c'est dans les publications dans le site Bia Training, hein. Tout ce que je vais vous dire, ça a été publié. Le seul intérêt des publications, c'est quand on raconte des trucs, bon, les gens peuvent aller vérifier, voilà. Donc, en fait, on a eu l'idée, nous, de se dire, ben, à la fin, le métabolisme aérobie, il est inhibé, parce que on peut plus, il y a du lactate, etc., les enzymes glycolytiques sont freinées. Donc, on peut plus, il y a un photo PFK qui est inhibé, et on peut pas continuer, parce qu'il y a trop d'acidose, etc. Donc, on a eu l'idée, pour débloquer VO2 et aller au-delà de ce qui se fait traditionnellement, de baisser la vitesse. C'est-à-dire dès lors qu'on est arrivé à un si mini plafonnement, on voit que la personne est dans le dur et que VCO2 continue de monter, mais VO2, pas vraiment, c'est le quotient respiratoire qui est le rapport VCO2-VO2 explose, on s'est dit on va baisser la vitesse. Et oh surprise, ça a permis à VO2 de monter encore. Et non seulement cela, mais après on s'est dit bon bref, ok, on va baisser, on a pu baisser jusqu'au niveau du seuil ventilatoire 2, enfin même au niveau du seuil lactate. Après on s'est dit bon, on a observé que ça commençait, VO2 commençait à décrocher, bon, on avait vraiment baissé, donc on est remonté. Puis comme ça on s'est amusé à faire du tuning, en augmentant, baissant, augmentant, baissant, et on a pu prolonger, avoir un plateau de VO2 max qui était déjà plus élevé que ce qu'on aurait pu observer, qu'on avait commencé à observer, pendant, pour certaines personnes, 28 minutes. Voilà. Donc, la personne était à un VO2 max plus élevé que d'habitude, et en plus, un temps de maintien très élevé. Donc, ça veut dire déjà que on croit beaucoup de choses en raison de protocoles. Hein. C'est un peu comme le bocal du poisson rouge. On le met dans un bocal, il a une taille, le poisson. Peut-être que si on lui donnait un plus gros bocal, il grossirait. Il prendrait de la place. Donc, en fait, on se met dans des bocaux mentaux et après, on en tire des concepts. Donc, c'est pour cela que nous, on a décidé de faire des tests à la sensation et de s'affranchir avec les tests qui consistent à prendre la vitesse comme variable indépendante, c'est-à-dire on impose au coureur une augmentation de la vitesse qui n'est pas du tout naturelle. On a préféré lui demander de faire de la vitesse facile, moyen dur, très dur, avec la possibilité de rester dans la même zone de sensation, de varier la vitesse pour se mettre plus à l'aise avec des micro-récupérations. Et on a atteint des VO2 max plus élevés que quand on demande aux gens de faire. Il y a des personnes à qui ça ne convient pas du tout d'imposer la vitesse. Et après, je répondrai à la côté génétique. Oui.
Ouais, du coup, Véronique, si je comprends bien, sur le test de vitesse incrémentale, c'est le facteur limitant, ce serait notre gestion de l'acidose, notre gestion du lactate. Et le fait de faire un intermittent nous permet en fait de recycler ce lactate. Et donc d'enlever ce facteur limitant pour pousser le plateau de VO2 max.
Oui, c'est ça. Mais dans VO2 max, il y a une composante, vous êtes d'accord que c'est associé à une vitesse la plus élevée possible. Et quand on court, il y a une grosse composante de force. Vous êtes kiné, donc la force spécifique à l'appui. En fait, la course à pied a pour difficulté de quand on atterrit au sol. Donc on n'a pas de pied au sol constamment, on a un temps de vol, et contrairement à la marche, on a un transfert d'énergie cinétique en potentiel, parce que c'est pendulaire la marche, on passe d'un pied à l'autre, et on conserve l'énergie. En course à pied, quand on arrive au sol, quand on atterrit, tout est à zéro, l'énergie cinétique est potentielle. Donc il faut relancer, ce que l'on appelle l'impulsion. C'est là qu'on rejoint des termes de terrain. L'impulsion, en mécanique, c'est la force que multiplie le temps. Et c'est aussi la quantité de mouvement. P égale MV. Et la conservation de la quantité de mouvement, c'est le problème de la course à pied. C'est pas une roue. La course à pied en vélo, on a une roue. Donc en fait, c'est ça qui est très coûteux. Donc pour impulser, ça demande un développement de force dans un minimum de temps pour avoir la restitution de l'énergie élastique, puisqu'on a un attirement des muscles excentrique, de façon excentrique quand on atterrit au sol. Et c'est pour ça qu'en course à pied, il faut récupérer, pas enchaîner les séances comme en vélo. On a de la casse musculaire. Et donc, il faut, pour pouvoir avoir un coût énergétique pas trop élevé en course à pied, avoir de la force. Et effectivement, pour revenir à VO2 max, si on n'a pas assez de force, on est obligé d'avoir un temps de contact au sol augmenté pour avoir la même quantité de mouvement, la conservation des quantités de mouvement. Puisque P égale donc P c'est MV, c'est aussi FT, et si on a moins de force, on augmente le temps de contact au sol. C'est pour ça de regarder, c'est intéressant de regarder sur cardio GPS les temps de contact au sol. Maintenant, on a des montres qui permettent de le regarder. Et de savoir, ben, quand on fait une séance de HIIT, ben, quand le temps d'appui au sol commence à vraiment augmenter, on va avoir tendance à s'asseoir, avoir le bassin qui part en avant, et là, la course à pied, elle va faire mal, quoi. Le travail est inefficace. On va pas faire du bon boulot. La qualité est très importante, plus que la quantité. Donc, la force est un facteur limitant de VO2 max. Parce que on peut pas atteindre de grandes vitesses et les maintenir si on n'a pas suffisamment de force et de capacité à impulser en un temps minimum pour avoir la restitution de l'énergie élastique. Donc, en fait, c'est vraiment nos pistons, quoi. Il faut pas qu'ils soient en gomme, on fournit de l'énergie, et pour que les roues tournent bien, du moteur, de la voiture, de notre véhicule, il faut que les roues, tout ce qui est roulement, tout ça, ça tienne le coup, c'est-à-dire les muscles. Donc, VO2 max, il dépend, effectivement, c'est un facteur global de ventilation, de circulation, de muscles, et d'enzymes et puis de cerveau.
On va.
De génétique.
Non, merci. Ouais, on va justement, j'avais une question par rapport à ça parce qu'il me semble que vous avez écrit un livre sur la VO2 max dans le temps avec
Ouais.
justement son évolution. Donc j'aimerais qu'on revienne sur cette question génétique avant de revenir sur le test que vous avez commencé à évoquer. Et est-ce que aussi vous qui êtes expert de la VO2 max, vous voyez un lien avec la longévité, l'espérance de vie parce que c'est souvent revenu. C'est un petit peu quelque chose qu'on entend régulièrement. On voulait avoir votre avis sur cette question.
Alors premièrement, toutes les études qui étudient l'évolution de VO2 max avec l'âge, alors montrent qu'en fait la baisse de VO2 max avec l'âge, elle est inéluctable. La seule différence, c'est que, et d'ailleurs la pente douce de la baisse de VO2 max avec l'âge, elle est la même chez des gens entraînés et non entraînés. Sauf que c'est ce que je dis à mes élèves. De STAPS, autant partir de plus haut. C'est-à-dire que si on a un capital VO2 max de départ, et ben, même si on a une pente qui est la même que celle des sédentaires, on va au même âge avoir un VO2 max de jeune, quoi, on va dire. Donc ça veut dire que si on a un VO2 max plus élevé, on va pouvoir ne pas être limité par des défis qu'on va se donner. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben, je me sens en forme, donc je vais pouvoir aller marcher, etc. Du coup, on est quand même dans un cercle vertueux, parce qu'on a maintenu, on est parti d'une super condition physique jusqu'à l'âge, un VO2 max très important qu'on peut tenir si on s'entraîne jusqu'à l'âge de 40 ans. Après, ça commence à baisser, mais malgré tout, on se sent bien, donc on va continuer à faire du sport. Alors, ce qui n'est pas bon, par contre, c'est de vouloir à tout prix à 50 ans, continuer à être dans une spirale de la comparaison. Alors, Strava a fait beaucoup de mal hein, là-dessus, avec ce qu'on faisait avant, avec ce que font les autres, etc. Plus que jamais, quand on avance en âge, il faut s'écouter. Et en fait, la connaissance de soi, il faut prendre le temps de se connaître, parce que la connaissance de soi avec l'âge va combler beaucoup de déficits physiologiques qui sont quand même inéluctables. Voilà, donc, et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut réverser. C'est ce qu'on a fait avec notre centenaire. C'est-à-dire, on peut prouver que tant qu'il y a de la vie, ben, on peut augmenter VO2 max. Certes, on va partir, bon, lui, il avait, à 100 ans, il avait 30 de VO2 max. On a pu remonter à 37, à 100, 103 ans, 104 ans. Voilà, on a pu réverser les effets de l'âge. Donc, tout est possible. On sait que ça baisse. Quand on fait aussi bien des études transversales, c'est-à-dire qu'on prend des gens de différents âges, groupes d'âge, et on compare, ou longitudinal, on a la chance de suivre quelqu'un 30 ans, 40 ans, les mêmes personnes. Ça, c'est des études un peu plus rares. Faut que le physiologiste soit aussi une belle longévité. Mais on a la possibilité de réverser. Par contre, si on fait le même entraînement qu'avant, même si on avait le meilleur des entraînements, c'est pas la solution pour maintenir un bon VO2 max avec l'âge, voire même le réaugmenter.
Parce que
Parce que
Vincent, tu avais une.
articulairement, c'est votre métier. Vous savez très bien que ben oui, les articulations, on peut pas vraiment les entraîner. Un tendon, voilà, à la limite, vous avez un avis à donner. C'est intéressant de le donner. Vous êtes d'accord que au niveau de la carrosserie, on vieillit et on ne peut pas se soustraire au vieillissement du tendon, des cartilages, etc.
Oui, il faut toujours
Merci.
être à l'écoute des sensations, adapter la charge. De toute façon, c'est les mêmes principes que l'entraînement, ça, savoir s'écouter. Je pense qu'il y en a beaucoup, comme vous dites, qui sont un petit peu, malheureusement, pas assez à l'écoute de leurs sensations. Et je pense qu'il faut remettre ça au cœur de l'entraînement, c'est essentiel. Est-ce que toi, Vincent, tu as une dernière question, peut-être sur la VO2 max de façon générale, avant de partir sur les tests?
Alors,
Mais ouais, là, on a parlé de l'âge.
au niveau génétique, bien sûr, ça va jouer. Bon, les Américains ont dépensé beaucoup de dollars là-dessus. La génétique joue pour les dernières médailles, hein. Mais effectivement, déjà, la morphologie, si on est longiligne, si on est léger, si on est lourd, on va pas avoir les mêmes aptitudes. Encore que sur le marathon, ben, je vous ai dit qu'il fallait de la force. Si vous regardez bien, Les kényans, même les kényans qui paraissent minces, ils ont toute leur masse musculaire, ils ont des bons cuisseaux, et les masses musculaires réparties plutôt en proximal, près du centre de masse, avec des mollets fins, parce que le bras de levier est plus léger, enfin voilà, moins défavorable. Mais c'est quand même des gens qui ont beaucoup de masse musculaire, et il faut pas croire. Donc on a toutes les morphologies même sur le marathon. Voilà, il faut pas se leurrer. Donc après la génétique, oui, elle joue effectivement sur notamment les mitochondries génétiques.
Longévité.
L'épigénétique, c'est l'activation des gènes, l'expression des gènes, qui effectivement dépend de notre environnement et de ce que l'on fait. On peut avoir des gènes qui ne sont pas exprimés.
Et quelle est la
Voilà
part
ça.
de l'enfant, l'entraînement à l'enfant, quelle est notre marge de manœuvre et quels seraient les meilleurs conseils pour entraîner nos enfants pour la VO2 max?
Alors nous, on est intervenu en milieu scolaire, parce que j'ai des anciens élèves qui sont professeurs d'éducation physique. On a effectivement, pour le cyclone d'endurance, on a comparé un entraînement à la sensation pour les enfants, c'était des CM1, à un entraînement cyclone d'endurance traditionnel avec VMA, des intervalles training en pourcentage de VMA, etc. Nous, on a fait facile, moyen, dur, voilà, pour les enfants. Et ils ont beaucoup plus progressé à la sensation. Parce que les enfants, ils ont un mode de locomotion un peu comme les animaux. Bon, j'ai un chien et aucun animal ne court à vitesse constante. Les enfants, c'est pareil. J'ai fait des mesures, comme je suis maire adjoint de mon village scolaire, j'ai fait des mesures à l'école de mon village et à la récréation. Et les enfants, à la récréation, ils courent jusqu'à 4 km. Donc, et pourtant, c'était pas une cour très très adaptée. On n'a pas une super cour et avec des vitesses qui vont de 0, de la marche à des 14 à l'heure. Hein, voilà, c'est ce qui est pas mal pour un enfant qui fait 1,40 m, 1,35 m. Et en plus, dans une récréation, le but c'est pas de faire des sprints, hein, c'est de courir après les copains, etc. Donc, je crois que pour les enfants, plus que jamais, il faut les laisser faire. Et les inciter à faire des à leur donner des jeux qui leur permettent de s'exprimer en intermittence. Et surtout pas les obliger à courir derrière papa pour vitesse constante. C'est une aberration. C'est comme les gens qui courent avec leur chien à haute température, un chien qui a un bulldog avec un nez écrasé, quoi. Au moment donné, les enfants, ils ont des petites jambes, ils ont un coup énergétique et deux fois le nôtre, hein. Ils sont obligés d'avoir des toutes petites foulées et ça coûte cher parce que il y a l'énergie qui est de rotation qui coûte cher de rotation autour du centre de masse et cette démultiplication des pas, ben, elle coûte. Hein. Nous, on a un coût énergétique d'un kilocalorie par kilomètre et par kilo à la course, la moitié à la marche parce qu'on a justement ce transfert d'énergie. Et les enfants, eux, c'est 2 kilocalories par kilomètre et par kilo.
Okay.
Donc,
Ouais,
en plus, ils ont. Voilà.
une belle différence. Ben, merci
Ouais.
pour ces précisions. Et maintenant, on va essayer de s'intégrer, de venir un petit peu à la partie test. Comment on fait donc pour déterminer sa VO2 max? On a vu qu'il y avait un test à la sensation. On n'est pas trop rentré dans le détail. J'ai pris quelques notes, mais est-ce que vous pouvez justement l'expliquer aux gens qui aimeraient le tester? C'est vrai qu'il y a un petit peu cette mode en ce moment d'aller en laboratoire, tester sa VO2 max, etc. Qu'est-ce qu'on va chercher justement à avoir avec cette VO2 max ou cette peut-être une vitesse aussi associée? Est-ce qu'on pourrait expliquer ça aux gens?
Alors, bon, comme je viens de le dire, le test par augmentation de la vitesse, il est complètement abscon et très loin de la réalité. On force les gens à tenir des vitesses par palier de 2 minutes. C'est pas là qu'on va avoir la quintessence de la physiologie. Nous, déjà, on ne travaille pas en laboratoire. On a des appareils très sophistiqués, les mêmes qu'en laboratoire, même plus performants. On fait tout dehors. Tout simplement parce que la course à pied notamment, ça demande une impulsion, comme je viens de le dire. Et quand on est sur un tapis roulant, on n'a qu'à se laisser, faut pas tomber quoi, mais le tapis se déroule sous nos pieds. On n'a pas besoin d'impulser. Si on impulse, on risque de se retrouver dans les appareils d'échange gazeux. Donc nous déjà, premièrement, on est tout en milieu écologique. Après, comme je vous l'ai dit, on va décortiquer. On va tout mesurer, VO2, le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque, l'activité cérébrale et toutes les composantes de force, les caractéristiques de la foulée. On a des accéléromètres. Donc on va faire toute la chaîne limitante de VO2 max. Donc non seulement la personne aura son VO2 max, mais elle aura son profil qui permet de dire voilà, c'est ça qui limite ou c'est ça qui voilà. Donc on va pouvoir proposer à l'entraîneur des séances d'intervalle training qui vont lever la barrière limitante de VO2 max. Voilà. Et pour ça, il faut effectivement adopter un protocole qu'on appelle RABIT, qui permet d'exprimer tout son potentiel, également de puissance, de résistance, d'endurance et de gouvernance, à savoir la gestion d'un effort quand on varie en termes de variation de vitesse pour rester dans une ISO, zone de confort. On va demander donc aux gens de faire sans échauffement 10 minutes à allure facile, puis une minute de repos immobile, puis un sprint où on va mesurer l'accélération et donc la puissance maximale, ensuite une minute de repos, 5 minutes à allure moyenne, c'est un peu ce qu'il y a de plus compliqué pour les gens, une minute de repos, 3 minutes à allure dure, une minute de repos, et on va terminer par 30 secondes à bloc, une minute de repos, et de nouveau 10 minutes à allure facile qu'on va comparer à la première séquence de 10 minutes à allure facile pour voir les effets de l'endomorphine, de tout l'exercice intense qu'on a fait avant, sur la perception de ce qui est facile. Donc, on va ainsi pouvoir vraiment dégager un profil, parce que vous allez avoir une note de puissance, de résistance, notamment sur le test de 30 secondes, la phase de 30 secondes, d'endurance, donc on va choper VO2 max, etc., et de gouvernance, la capacité à bien différencier les différentes zones. Il y a des gens qui ne sentent pas du tout leur corps et qui, par exemple, confondent le moyen et le dur. Et dans le facile, ils sont déjà dans le moyen, notamment les femmes. Les femmes sont tellement habituées, nous, ben, par exemple, quand on porte un pack d'eau de 6 fois 1,5 litre, ça fait 9 kilos, ben, c'est plus dur pour moi qui n'ai pas un poids stratosphérique que pour un mec. Nous dans la vie, les femmes, on est habituées à forcer davantage, à souffrir davantage. Donc, en fait, quand on demande de faire un truc facile, je le dis à tous les entraîneurs qui s'occupent des filles, eh bien, on a tendance à se mettre dans le moyen déjà. Et puis après, il n'y a plus de réserve pour aller dans le dur. Et encore moins pour aller dans le très dur. Voilà. Donc, et on regarde au niveau cérébral ce que ça donne également. Les femmes sont tout de suite dans l'activation du cerveau qui correspond à une mise en œuvre d'une certaine puissance cérébrale. On y met de l'énergie cérébrale. Donc ça, c'est pour le côté féminin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que regarde comment on varie la vitesse. Alors, on a quatre items. Je le répète, puissance, résistance, endurance, gouvernance. Vous êtes d'accord que factorial 4, on a 4 fois 3 fois 2, 4 fois 3, 12 fois 2, 24, profils différents de personnes en fonction de nos dominances. Parce que ce qui est important, c'est pas tant la valeur absolue que le profil de la personne. Là, on va voir ses points forts et ses points moins forts. Voilà, et on va pouvoir jouer dessus, lui trouver un entraînement qui va ben, déjà le satisfaire, puisque on va appuyer là où ça fait du bien, se servir en levier des points forts pour améliorer les points faibles. On se met dans une stratégie de la réussite du cercle vertueux. Ça marche pas quand on avec même des élèves, quand on punit, ça marche pas. Les animaux encore moins. Quand on récompense avec des choses sympathiques, des encouragements et des points bonus hein, avec les élèves par exemple, ça marche. Donc l'entraînement c'est pareil, il faut qu'on ait du plaisir et l'entraînement à la sensation. On n'a pas peur d'aller faire comme moi j'ai vécu le mardi, c'était il y a 45 ans et je suis sûr qu'il y en a qui font encore ça. Le mardi, c'était 15 fois 200 mètres avec 200 récup ou 100 mètres de récup, allure VMA. Et puis le jeudi, c'était intervalle long, 4 fois 1000 mètres à 90% de VMA. Voilà. Et moi, je me souviens, j'allais faire mes séances ras-le-bol, quoi. J'en avais marre. C'est toujours la même chose. Et puis, en plus, j'avais peur. On me disait, tu dois faire tes 1000 mètres en 3,22. Sinon, t'es de la merde. Enfin, sinon, ça va pas. Tes 200, tu dois les tourner en 35. Sinon, ça va pas. Et ben non, il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où on peut pas parce qu'on a une journée. Et, alors, l'intérêt, c'est de, une fois qu'on a dégagé les profils des gens, on leur donne l'entraînement qui correspond, on a un super algorithme qu'on a développé en 10 ans, en 4 thèses, dont BioInfo, etc. Donc, moi, je crois beaucoup à l'interdisciplinarité. Et une fois qu'on a donné, en fonction du profil, l'entraînement qui va bien pour la personne, on tient compte de son niveau de VO2 max, bien sûr, parce qu'après, on a des niveaux de séances. Pour chaque profil, on a des séances, mais en fonction du niveau quand même absolu de la personne, on a des séances force 1, force 2, force 3. Avec des thèmes résistance, endurance, gouvernance et puissance. Et des codes couleurs. On leur donne des séances avec facile, moyen, dur, beaucoup de fractionnés en triangle, en accélération progressive, on balaye toutes les zones, et non pas en onde carrée. Parce qu'on a découvert que ce qui était en accélération, F égale MA, Newton, deuxième loi de Newton, si on veut travailler la force spécifique à l'appui, avoir un bassin en rétroversion et pas le cul en arrière, il faut se mettre en position d'accélérer comme un hors-bord. Si on est toujours à chercher, on accélère puis on se met après en onde carrée à vitesse constante, on va se relâcher. Une fois qu'on aura accéléré, on va essayer de maintenir, mais là, on va pas pouvoir maintenir. Et aussi, on a découvert que non seulement la phase d'accélération, elle est bénéfique, mais la phase de décélération. Puisqu'on a découvert que quand, je vous le disais, on peut redescendre très bas en vitesse et rester à VO2 max et rester à FC max. Voilà. Donc, quand on fait des intervalles en pyramide comme ça, enchaîné, on balaye toutes les zones du vert facile au noir très dur et qu'on se laisse redescendre. Ça, c'est dur parce que on a envie de tout lâcher quand on est en haut. Non, bah, faut faire progressivement. Et là, on est encore à VO2 max tout le temps jusqu'à à la moitié de notre relâchement. Et après, on repart tranquille. Et ça, c'est des choses très ludiques. Et c'est vraiment un réglage fin de notre corps. Et après, en course, on peut convoquer toute cette habilité de gouvernance pour après, le jour J, en fonction de comment on se sent, eh bien, on va trouver la bonne solution. Comme je vous le disais en début de podcast, on a la solution en nous. Voilà. Et il faut, je dirais, tailler cette matière brute pour en faire exprimer une œuvre d'art, dirais-je.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast. On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-up complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre, à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code PODCAST1000 pour une réduction. Lien et code en description. Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast.
Merci pour cette précision. Et donc, une fois qu'on a fait ce test, on entend aussi beaucoup parler du test VMA. On parle aussi de... Enfin, je vous ai écouté, c'est de l'importance aussi du temps de soutien à VMA. C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins. Est-ce que pour vous, c'est essentiel justement de faire ces tests VMA et ce temps de soutien à VMA?
Alors pour moi, le test à VMA, c'est pas forcément, comme je viens de le dire, essentiel avec un protocole classique. Le temps de maintien à VMA, je l'ai conçu en 94. Parce qu'à cette époque, j'étais encore, je dirais, sur la problématique de VMA et de la détermination par un test de Vameval. Le test de Vameval a été inventé par Luc Léger en 84, donc 10 ans avant, On était encore en plein dans ce paradigme. Donc c'est pour ça que j'avais déjà eu ma première idée, c'était de me dire, de constater, de m'interroger sur le fait que deux personnes qui avaient la même VMA à l'issue d'un test classique de 20 MEVAD, est-ce qu'ils avaient la même capacité à durer, à tenir ce temps limite à VMA? Ça, c'était en 94. Et donc là, j'ai démontré que par exemple, deux personnes qui ont une VMA de 20 km heure, par exemple, eh bien, il y a une personne qui peut tenir 3 minutes et l'autre qui est capable de tenir 12 minutes. Et j'ai démontré par la suite que ce temps limite à VMA dépendait de la capacité lactique. En fait, comme à VMA, on est à peu près à 12 millimoles de lactate, on a déjà beaucoup de lactate accumulé, parce qu'on est exclusivement sur le métabolisme des sucres, on ne peut plus utiliser des lipides. Ça intervient à partir du seuil ventilatoire. Eh bien, donc, on a beaucoup de casse de sucre. Le lactate fait son travail. Ici, on a une acception des protons H+, qui permet de transformer l'acide pyruvique en lactate et de, j'irais, tamponner un petit peu les protons H+, mais au bout d'un moment, on ne peut pas le tolérer. Donc, en fait, la capacité à tenir VMA dépend de la capacité à augmenter son lactate, à arriver à des lactates de 16-17 millimoles et à tolérer. Donc déjà cette accumulation lactique. Donc c'est ça que j'ai mis en évidence que ben, c'était justement de mettre en évidence que le temps de maintien à VMA dépendait de la capacité lactique, de ce qu'on appelle la résistance.
Et donc ça, on le fait le lendemain du test ou quand est-ce qu'on le fait ce temps de soutien à VMA? Est-ce qu'on l'enchaîne pas après notre premier test de VMA? On le fait sur un autre jour? Comment on fait aussi pour se mettre dans des bonnes conditions de test à un moment qui peut être reproductible? Et quels seraient les conseils pour nos auditeurs qui peut-être après ce podcast vont se dire bah, je vais écouter Véronique et je vais tester tout ça?
Eh bien, 3 jours après. De toute façon, que ce soit un test de 20 MEVAL ou un temps limite à VMA, alors il faut bien s'échauffer. Parce que je vous rappelle que le corps peut être à VO2 max avec uniquement une température de 38 degrés, 38,5, pour l'efficacité des enzymes oxydatives. Eh bien, l'échauffement, donc c'est au sens littéral du terme, il faut monter la température du corps. Donc 3 jours après, bon, c'est comme une séance de fractionné, on va faire son temps limite à VMA. On a montré dans nos publications de 94 que c'était éminemment reproductible d'une semaine à l'autre. Mais vous pouvez vous amuser à tester la reproductibilité.
Super. Mais une fois que les gens ont eu leur VMA, justement, leur temps de soutien à VMA, là, on va rentrer vraiment dans la partie maintenant pratique. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Quel type de séance on va orchestrer, on va mettre en place? On a parlé notamment aussi au début des facteurs limitants. Donc, on a compris que je pense que les auditeurs, ça sera pas forcément l'aspect respiratoire qui va les limiter, mais peut-être plus le cardiaque. Pour faire un résumé pour ceux qui seraient un peu plus débutants et les intermédiaires, peut-être là, même si c'est résumé, hein, bien sûr, et chaque cas est particulier, ça serait plus musculaire. Comment on fait justement pour travailler sur ça? Comment on organise son entraînement à partir de cette VMA?
Alors déjà, concernant la partie ventilatoire, faut pas l'évacuer parce que il ne vous a pas échappé qu'il y avait des modes qui consistaient à dire faut contrôler sa fréquence de pas et sa fréquence respiratoire. Donc déjà ça vous oubliez, d'accord? Parce que si vous commencez à contrôler votre fréquence respiratoire qui est aussi dépendante de la fréquence de pas, vous allez limiter la ventilation et là vous allez vous créer des problèmes de ventilation. Donc ça c'est évacué. Donc si la barrière limitante est le volume d'éjection systolique, l'aspect cardiovasculaire. Donc là, on a aussi démontré que il faut améliorer alors on a fait des mesures de volume d'éjection systolique. On a démontré que chez les gens bien entraînés, on pouvait augmenter le débit sanguin, la quantité de sang, donc d'oxygène envoyé de l'aorte à chaque minute, ça peut passer de 5 litres, on a 5 litres de sang dans le corps. Au repos, on a 5 litres, un débit sanguin qui sort de l'aorte du cœur gauche de 5 litres par minute. On peut passer à 25 litres par minute. Ceux qui ont fait du camping apprécieront, ça fait un gros jerrycan de 20 litres et plus qui sort de l'aorte à chaque minute. Et donc ça c'est le produit du nombre de fois que la pompe cardiaque se vide le cœur, enfin se contracte. On appelle ça la fréquence cardiaque, Tu multiplies la quantité de sang éjecté à chaque fois qu'on a un battement cardiaque, le volume d'éjection systolique. Pour améliorer le débit sanguin, on a deux façons de le faire, par la fréquence et par le volume. Si on veut améliorer, habituer notre cœur à battre vite au maximum, normalement ça dépend de l'âge, mais on peut toujours, Robert Machan, à 100 ans, il montait encore à 157 battements par minute, alors qu'en théorie, il aurait dû être à 220 moins l'âge. Je vous laisse calculer. Le cœur, il est entouré d'un myocarde, d'un muscle, et il faut aussi l'entraîner à battre vite, même avec des débits, pour pouvoir envoyer du gros débit. Et bien ça, c'est plutôt des séances de fractionnés courts, du style 30-30, pour monter en FC max. Et puis, si on veut travailler le côté volume d'éjection systolique, on va plutôt faire des séries plus longues, des 3 minutes à 95% de VMA. Ça, c'est toujours pour les modèles traditionnels d'entraînement. Mais là, au moins, on sait pourquoi on le fait. Moi, j'entraîne, moi, j'utilise la traversée des zones et vous avez bien compris que ce n'était pas la façon de faire. Mais en tout cas, si vous êtes dans un entraînement du type traditionnel, au moins, sachez que si vous travaillez l'intervalle court de type 30-30, sur lequel on a pas mal bossé aussi, vous allez plutôt travailler la composante de fréquence cardiaque maximale. Et si vous travaillez légèrement en dessous, plus long, à des fractionnés 3 minutes, à 95-90% de VMA, où on est encore capable d'augmenter le volume d'éjection systolique, vous allez travailler le volume d'éjection systolique. Parce que vous allez battre moins vite et vous allez vous laisser plus de temps pour la vidange. Voilà. Donc si c'est, la barrière, c'est plutôt le côté musculaire, la différence artério-veineuse, là, partez sur des séances de fractionnés intermédiaires au niveau de votre vitesse critique entre le seuil ventilatoire 2 et la VMA, ou voire même juste au-dessus du seuil ventilatoire 2, sur des séries de 2 fois 10 minutes, 2 fois 20 minutes, récupération 5 minutes active, allure facile, donc 2 fois 20 minutes à, par exemple, 85%, de 90% même de votre VMA. Voilà. On appelle ça d'état 50. On se situe entre le seuil ventilatoire et à la moitié de la différence qu'il y a une vitesse médiane entre la vitesse au seuil ventilatoire et la vitesse à laquelle on commence à être essoufflé, à ne plus pouvoir parler, pour dire simple, et la VMA. Et là, on fait des fractionnés de 10 à 20 minutes.
Merci beaucoup pour ces précisions. C'est parfait et très pratique, je pense, pour les auditeurs. On a parlé, c'est vous qui l'avez dit au début du podcast, donc de ces facteurs limitants au niveau cardiaque. Ça serait pour les gens qui auraient peut-être en dessous de 50 et au contraire, donc pour les musculaires, un peu plus. Mais est-ce qu'au niveau des sensations, justement, on a parlé de l'importance des sensations, est-ce qu'on peut avoir justement des sensations qui nous font dire que là, mon facteur limitant, c'est plus musculaire ou c'est plus cardiaque, ou ça, c'est quand même très difficile à ressentir?
Non, c'est simple. Quand on observe que dans une séance, on n'arrive plus à monter en FC, ça peut être côté musculaire, dans la mesure où on n'a pas rechargé assez en glycogène. Vous savez, quand on monte les escaliers, qu'on a les grosses cannes, on a une sensation d'avoir les jambes lourdes. Enfin, c'est qu'on n'a pas tout simplement, on n'a tout simplement pas rechargé en glycogène, parce qu'il nous faut quand même, il y a une casse musculaire en fait, une casse des fibres, des filaments musculaires. Et il a été démontré que un muscle qui a été un peu abîmé, pas abîmé, mais je dirais usé, quoi, tout simplement usé, il y a de la lyse, la casse, de la myofilament, il accroche moins bien le glycogène. Il va pouvoir, le glycogène musculaire, on en a quand même une réserve de 300 grammes et 100 grammes dans le foie, cette accroche du glycogène va pas pouvoir se faire. Donc, on va pas monter notre cœur en fréquence cardiaque max, tout simplement, parce qu'on n'a pas les cannes pour le faire. Et tout simplement parce qu'on n'a pas le glycogène pour le faire. Et parce qu'on n'a pas assez récupéré. C'est d'où l'importance de travailler, si on est vraiment incapable de ne pas aller courir un jour. Bon, moi, je vous conseille de faire de l'aquajogging. Vous achetez la ceinture d'aquajogging à 19,90, je ne dirais pas le magasin. Mais c'est assez simple et intuitif. Et vous la mettez et vous allez courir dans l'eau. Ou alors faire une séance de vélo d'appartement. Parce que pensez bien que courir, ça casse le muscle. Et même si on mange tout ce qu'il faut, les pâtes et les sucres lents et tout ce qu'on nous a dit de manger, etc., il va pas pouvoir accrocher le glycogène, la fibre musculaire qui a été cassée. La course à pied, c'est compliqué quand même. Il faut se laisser récupérer.
Et justement, ces stocks de glycogène, on en parle beaucoup, surtout pour le long, voire même le très long pour le trail. On avait eu Fabrice Kuhn, peut-être que vous connaissez, qui nous avait parlé de séances à glycogène bas. C'est donc de faire une séance de fractionner le matin pour essayer justement de les. Après, voilà, il mettait bien sûr de faire ça à proximité des compétitions, pas le faire toute l'année. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou le fait peut-être de s'entraîner avec des réserves qui auraient peut-être été affaiblies pour justement essayer de travailler encore un peu plus, les vider encore un peu plus. Est-ce que pour justement créer des adaptations autour de ce glycogène, il faut forcément le vider? Ou il nous disait que des fois, il fallait même essayer de ne pas forcément de suite restocker derrière. Est-ce qu'il y a un consensus derrière? Parce qu'on a demandé ça à beaucoup de
Ah,
personnes.
c'est le
C'est
vieux
difficile.
paradigme. Ouais, c'est le vieux paradigme du régime dissocié scandinave des années 70 où on faisait les trois premiers marathons moins 10, 10 jours. Pendant 4-5 jours, on mangeait plutôt des lipides et des protides. Et les quatre derniers jours, on blindait en glucides. Mais ça a été largement abandonné. Alors maintenant, si cette autre façon de faire, c'est de s'entraîner, vider les réserves de glycogène au lieu de manger des lipides et des protides. Donc on a moins de problèmes intestinaux. Mais je dirais que la qualité de la séance et le risque de blessure, il est important. Et pourquoi s'habituer à avoir des sensations où on va aller chercher dans les cétones, dans les lipides, alors que le jour de la course, on va tout faire pour justement optimiser ses réserves de glycogène jusqu'au bout en variant ses vitesses. La clé, c'est sûr que si on se dit on va courir le marathon en 2,48, on se dit c'est 15 à l'heure, on regarde sa montre, on court à 15 à l'heure, on va forcément au 26e kilomètre, c'est tous nos travaux qui démontrent avoir le mur, inexorablement. On va vider les réserves de glycogène. Pourquoi s'habituer à travailler des réserves de glycogène basses plutôt que de s'habituer à les épargner en ayant une stratégie de variation de vitesse qui, in fine, va faire qu'on va éviter le mur et que la vitesse moyenne résultante de toutes ces petites vagues va être plus élevée que de se prendre une vitesse constante pendant 26 bornes, qui sera dans l'allure qu'on voulait absolument avoir pour la perf finale, et après un super gadin qui va faire que la vitesse va tellement être réduite que la vitesse moyenne résultante va être largement inférieure à celle que l'on pourrait avoir en gérant ses réserves de glycogène par des variations de vitesse, je dirais, optimales, et que l'on va travailler à l'entrée.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Oui, parce que vous dites, c'est dans une course, il ne faut pas courir à vitesse constante. Il faut essayer justement de partir un peu plus rapidement, décélérer et après faire des micro-ondulations
Voilà,
pendant la
voilà.
course. Mais est-ce que ça, justement, on pourrait l'expliquer pourquoi ça peut être intéressant et aussi à quelle allure partir, comment on peut être sûr, est-ce qu'il y a des tests à faire pour savoir que c'est ma bonne allure? Parce que souvent, on se dit, ben, je vais faire mon marathon à moins de 3 heures, par exemple, je fixe, mais est-ce que j'en suis réellement capable? Comment je peux savoir? Il y a le test IASO, il y a pas mal de tests qui sont pour le
Non, mais
marathon, le semi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en
alors
place
nous
et
on est
tester?
capable, on a un test sur 20 bornes, sur un semi, allure marathon, on est capable de donner aux gens avec un simple semi couru allure du marathon, attention, hein, réalisé 10 jours avant. On est capable de donner une stratégie, une signature de variation de vitesse, mais sans la garantie que le jour J plus 10, ce soit exactement le même état. Voilà. On est capable de le faire, oui. On a des modèles très 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 efficaces là-dessus, mais la réalité de J-10, c'est pas la réalité de J. Voilà. Donc, faut être très modeste et il vaut mieux entraîner la personne à sentir son corps pour que le jour J, elle ait confiance et qu'elle en elle et qu'elle trouve la solution, parce qu'on aura travaillé ça. C'est comme de répéter, les JO, une danse sur glace, une figure, voilà. Et la course à pied, On s'est trop mis dans la tête que c'était mécanique, allure constante, truc de bourrin. Non, c'est pour une fois, il y a des variations de vitesse à trouver. C'est une musique. C'est une musique, il y a des fréquences, il y a fréquence de pas, respiration. Enfin, on a notre musique de corps en fréquence, voilà, même au niveau du cerveau. Et on est des êtres en fréquence et il faut trouver la bonne fréquence. Voilà, et c'est ça notre travail actuel. Et de le faire à tous les échelons musculaires, etc., etc., jusqu'au cerveau.
Et nos auditeurs, justement, qu'est-ce qu'ils pourraient essayer de faire? Donc, faire votre test, c'est ça? Essayer, ça y est pour tout, ça y est pour le marathon, le semi, le 10 km?
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon,
Ok.
et limite, s'ils sont sur Paris, ils peuvent venir nous voir. On fera des mesures. Dès lors qu'on est dans un protocole de recherche, c'est gratuit. Après, tout n'est pas gratuit puisqu'on est en autofinancement. Parce que dans le service public, vous avez bien compris que l'argent va plutôt à faire des bombes en ce moment. Voilà. Et moi, à la recherche, où la recherche est uniquement orientée avec des problématiques d'IA, etc., des trucs à la mode, hein. Donc, à un moment donné, c'était la génétique, maintenant c'est ça. Mais pas à l'entraînement. Voilà. Et surtout sur les méthodes d'entraînement qui permettent à chacun de progresser. Alors que, là encore une fois, l'énergie humaine, c'est la clé de tout. Parce que si on est dans une société avec un VO2 max moyen très bas, on va vers une société non écologique, hein, en mauvaise santé, parce qu'effectivement, VO2 max est un critère très fiable de l'espérance de vie en bonne santé, qui est de 70 ans seulement. Ça va coûter la société. Et nos gouvernants n'ont pas compris que l'activité physique, l'entraînement, la recherche sur l'entraînement personnalisé, hautement personnalisé, est la clé d'un bon VO2 max et donc d'une longévité active et de moins de charges pour la société. Bon, après, il ne faut pas trop le dire à voix haute parce qu'ils vont nous mettre l'âge de la retraite à 75 ans. Ceci, moi, je ne suis pas contre, hein, personnellement. Il
Ouais.
faudrait pouvoir faire une bourse d'échange. Moi, j'aimerais travailler jusqu'à la fin, comme
Juste.
Molière. Mais bon, voilà.
Ça marche.
Je
Mais du
vais
coup,
juste rebrancher, donner un peu de glycogène à ma batterie.
on a parlé donc des séances à haute intensité, des intermittents en cours. On n'a pas parlé de
Ouais.
la basse intensité. Est-ce qu'il y a, on a entendu qu'il y aurait peut-être un effet positif, notamment sur l'hypertrophie du cœur aussi, de la basse intensité. Est-ce
Ouais,
qu'on peut
alors attends, je reviens juste. Tac. Ouais. Alors, oui, la
Allez.
basse
Oui, de la
intensité.
basse
Alors.
intensité. Est-ce que la basse intensité permet d'augmenter sa VO2 max? Peut-être, hein, je ne sais pas, pour certains.
J'ai la réponse. Le vieux mythe des années 70 du LSD, donc c'était la période hippie, hein, long slow distance training, parce que vous savez, hein, c'est comme les marronniers, enfin les trucs à la mode en ce moment, c'est des trucs il y a 50 ans, quoi, 60 ans. Le long slow distance training, on pensait que c'était super efficace. C'était aussi l'entraînement des INS des années 70 pour augmenter le volume cardiaque. Alors, je vais vous dire un truc, ça c'est encore un biais protocolaire, tout simplement, et de laboratoire. C'est qu'à l'époque, comme on n'avait pas de moyen de mesurer le débit cardiaque par impédance-métrie, donc on met des électrodes et tout simplement, c'est comme une balance qui mesure votre masse grasse, etc., c'est d'impédance. Bien, c'est un appareil où on met des électrodes ici. On regarde combien de temps l'électricité a traversé le corps, qui est proportionnel, delta Z sur delta T, la variation d'impédance par les temps est proportionnelle au débit cardiaque. Et avant, on n'avait pas ça. On était obligé de demander à des étudiants en médecine de faire, entre guillemets, cobaye, j'aime pas ce terme, parce que là, pour le coup, on leur rentrait un cathéter au niveau de l'artère humérale et on les payait pour ça, parce que ça fait mal. Voilà. Donc vous pouvez bien croire que les étudiants en médecine, c'est pas forcément des coureurs de fond. C'est pas forcément des gens qui s'entraînent, ils n'ont pas le temps, le cours. À l'époque surtout, où le sport n'était pas à la mode. Au marathon, il y avait 40 personnes au départ des championnats de France, dans les années 70.
On aurait
Et
tout
puis
championnat de France.
les femmes étaient encore interdites, hein. 76, il fallait se cacher en homme. Et la première marathonienne au JO, c'est Joan Benoît, 84. Voilà. Donc en fait, ils ont cru que le volume d'éjection systolique, le côté volume du débit sanguin, et je l'ai dit, le débit cardiaque, c'est un facteur limitant important du VO2 max, c'est le premier facteur limitant, eh bien, pensez que on avait constaté sur ces étudiants déconditionnés, enfin pas forcément encore d'endurance, que ce volume, ils ont constaté qu'il plafonnait à 50% de VO2 max. Donc, ils se sont dit, bah, ça ne sert à rien de travailler à haute fréquence cardiaque, parce que de toute façon, le débit sanguin, il ne compte que par la fréquence cardiaque. Et si on veut augmenter notre volume, autant travailler à la vitesse à laquelle le volume d'éjection systolique commence à plafonner. Donc, tout ce mythe du slow long distance training pour améliorer les capacités cardiaques, bah, la preuve, c'est que tu vois, il perdure. Je pensais qu'on l'avait enfoui. Mais bon, le problème, c'est que c'est là que ton podcast est super important, que tous les podcasts sont super importants. Je dis toujours welcome aux gens qui veulent venir nous voir en labo. Et notre labo, c'est sur le terrain. Enfin, voilà, on a un super parc derrière l'université. Et parce que, en fait, ça reste enfoui dans les publications. Et en plus, on est obligé de publier en anglais. Sinon, ça compte pas. Voilà. Donc, ce mythe a perduré. Et les entraîneurs, comment la formation de l'entraîneur est faite depuis très longtemps? C'est des anciens champions qui passent un brevet d'État 1, 2, 3, voire 3, pour avoir moi-même passé des brevets d'État et encadré des brevets d'État récemment. Bon, ils vont pas rentrer dans les détails de la physiologie avec les mesures du débit cardiaque par impédance-métrie. Ok, il y a d'autres choses. Donc, en fait, il y a... Et puis, même à l'université, hein, en STAPS, bon, ben, il faut vraiment tomber sur un prof qui a fait ça, ou voilà. Chacun sa spécialité. Donc, en fait, il y a une reproduction, comme aurait dit Bourdieu, des savoir-faire, des habitudes, des us et coutumes, et pas de remise en question.
Et donc, ça serait quoi votre vision de la basse intensité? Quel intérêt elle aurait donc dans l'entraînement et comment on la placerait? Quel pourcentage justement de l'entraînement elle devrait représenter, même si ça dépend des distances, bien sûr?
La basse intensité, pour avoir fait du ski de fond, elle est tous les sports de glisse, comme la natation, prise d'appui, etc. Un sprinter, il est. Par exemple, là, il y a un skieur de fond qui est en train de relever le défi de tout gagner. Du sprint aux longues distances. C'est tous les sports de glisse, comme la natation et le ski de fond, par exemple, où on doit vraiment, et même en vélo, on doit faire bouffer de la borne pour, et heureusement, c'est moins délétère dans l'eau, en ski de fond et en vélo qu'en course à pied, on doit bouffer de la borne pour affiner le geste, notamment en ski de fond, la prise d'appui, etc., sentir la neige, sentir l'eau pour la natation et le coup de pédale qui doit être le plus lisse possible, etc. Ça s'acquiert avec du long. En course à pied, le long, pour avoir aussi travaillé et entraîné une Kenyane qui a été vice-championne olympique sur 5000 mètres, eh bien, le long, il est préconisé pour, comme à la Kenyane, on part, on fait du 4 à l'heure, et puis après on va accélérer, et puis on va ralentir. Je dirais, c'est pas une promenade, mais c'est prendre l'air. En ski de fond, on disait skignoler. C'est prendre l'air parce que il est intéressant aussi pour un peu affiner le geste. Encore que quand on court à allure lente, on a tendance à avoir le bassin qui part en antéversion. Moi, ce que j'aime bien dans le long, moi j'adore, j'ai fait traverser des Alpes en courant. J'adorais faire du off. C'est un peu de faire le trottien. Partir en trottien, puis d'un coup d'accélérer dans une côte, ce qu'on appelait en ski de fond l'intervalle naturel, et puis après faire un peu à l'envi comme les Kenyans. C'est-à-dire son long, on part deux heures et demie, mais pourquoi pas s'arrêter pour casse-croûter si on part trois heures, et puis repartir, et pas s'assigner à une vitesse constante. Voilà. Et aller sur tous les terrains, travailler le pied intelligent, surtout si on fait du trail. Travailler en dévers. Moi, je suis grenobloise, donc. Quand on va à la montée de la Pra, on a tout un en Beldon, on a tout un dévers. Donc si on a le pied un peu con, c'est plutôt travailler l'adaptation pour éviter les entorses, l'intelligence du pied, dirais-je. Voilà.
Parce qu'on entend beaucoup le 80-20 en ce moment, qui est quand même bien répandu dans l'entraînement, hein, ne serait-ce ces derniers temps.
Mais même dans la finance, hein, dans tous les domaines.
Ouais. Quel est votre avis? Ça serait 80% à basse intensité.
Ça, c'est des trucs américains qui reviennent en boomerang. Mais arrêtez, les gars, moi, ça tombe bien, mes étudiants, ils savent plus calculer un pourcentage. Mais je veux dire, arrêtez de prendre des trucs comme ça. On s'accroche à. Putain, mais lâchez-vous, arrêtez de compter. Je pense que déjà dans le boulot, il y a suffisamment de contraintes. Je sais pas pourquoi les gens ont
Après,
besoin de s'accrocher à des.
c'est une peur de la blessure, peut-être aussi de vouloir faire
Mais
trop
non, mais non, on vous
d'intensité,
a vendu
trop de.
ça à coups d'ads. Oh, il faut que je me calme parce que.
Allez, allez-y, allez-y. C'est justement,
Non, non,
non,
mais
mais c'est
non,
l'occasion aussi de
non,
parler librement, hein, de toute
parce que
façon.
tout est utile, parce que tout était utile. Les gens qui entraînent avec ces méthodes-là, bah, heureusement, ils font courir les gens. Et bah, c'est bien. Voilà. Mais après, ça devient dogmatique et ça enferme les gens dans des dogmes. Et moi, j'aime pas ça. Moi, je trouve que il vaut mieux essayer d'autres, enfin, faire comme on sent, quoi, que de se dire, calculer que je vais faire 80% de volume et 20%. Moi, je préfère dire, on va faire une séance de puissance, une séance de. J'aime mieux colorer les séances. Une séance de puissance par semaine, une séance de résistance, et puis la semaine d'après, une séance d'endurance et une séance de gouvernance. Moi, j'ai mon chien qui aboie là.
C'est pas grave, on l'entend
Elle
pas.
a toujours compris que les pigeons, c'était pas méchant. Elle aboie pour les pigeons.
Et justement, dans
Regarde.
ce juste pour revenir maintenant, on va finir par vraiment l'entraînement et les techniques de développement de VO2, mais même peut-être de l'entraînement de façon plus générale.
Ouais.
Avant juste de venir vraiment dans ça, on a parlé de VO2, mais est-ce que c'est essentiel de développer donc son moteur? On l'a compris. Même pour un trailer qui ferait du long, on est sur quoi? C'est vraiment, est-ce qu'on a la recherche de la. Il faut forcément avoir une VO2 max importante pour la performance, on est d'accord sur ça? Il y a des beaux bisous, ceux qui n'ont pas la caméra, il y a le chien qui est en train de bien faire des marques d'attention à Véronique.
Voilà, 32 kilos l'animal. D'ailleurs, elle fait du sport, elle fait de l'IGP. Elle fait du pistage, la défense du maître et l'obéissance.
Eh bien,
Le
nickel.
triathlon du chien de travail.
Complète.
Ouais, non, s'il faut les faire travailler, c'est bête. Ouais, donc, VO2 max, oui, c'est indispensable.
Voilà. Juste, voilà, on
Ah,
finit.
tu sais, c'est le truc qui permet de, même pour le sprinter. J'ai eu l'occasion de tester des très grands sprinteurs. Bon, bah, les sprinteurs français, les entraîneurs pensent qu'il faut faire du sprint. Un mec comme Usain Bolt, il a 60 de VO2 max. Et je veux dire, en Jamaïque, ils travaillent tous les gosses. Enfin, voilà. C'est parce que tu es rapide, qu'on a détecté en toi le mec super rapide, que il faut comprendre que de faire série finale, demi-finale, etc., enchaîner, même en judo, enchaîner des combats dans une journée, etc., tout vient de VO2. Le moteur thermique, il va éliminer le lactate, qui va recharger en phosphocréatine, etc., etc. C'est la base du moteur hybride. Après, tu fais ce que tu veux derrière. Mais après, comme je disais, le temps limite à VMA, tu le tiens parce que tu as une bonne capacité lactique, une bonne résistance. C'est pour ça que nous, on travaille tout. Et on travaille tout, on connaît les points forts, les points faibles, on travaille tout, on fait un beau tableau. Bon, moi, j'adore les monochromes, mais là, pour le coup, on va pas faire du monochrome. Et même un monochrome de soulage, il prend la lumière.
Oui,
À
c'est
travers
vrai.
du noir, on va voir en fonction du soleil, l'exposition du tableau, plusieurs couleurs. Nous, on est travaillé dans les couleurs. On a le vert facile, le orange moyen, le rouge dur et le noir très dur, comme au ski, quoi. Sauf l'orange, c'est du bleu, quoi. Enfin, voilà, il faut faire de tout, balayer les zones, et parce que c'est un moteur hybride et tout doit être synchronisé.
Bien, on va parler de ça. Et juste une dernière question avant de partir. Qu'est-ce qui aurait un intérêt aussi à faire d'autres sports? Je pense notamment aux rameurs, aux vélos, aux skieurs. On sait notamment que c'est souvent ceux qui font du biathlon qui ont la plus grosse VO2 max avec l'utilisation des membres supérieurs. Est-ce que ça
Ouais,
peut
ouais.
avoir du sens justement d'amener ça pour un coureur dans l'entraînement?
Complètement. Bah, dis donc, ton podcast, il est riche et tu penses à tout. Oui, bien sûr. Bah, par exemple, tu vois, nous, on a mis un vélo ergomètre sur la table et on a pédalé les gens. On peut monter on peut gratter du VO2 max en faisant bras-jambes. Et avec une puissance des bras de 15% et 85% sur les jambes. Parce qu'il faut savoir que un travail de bras, ça c'est pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques, un travail de bras, le watt du bras coûte 2 fois plus cher en oxygène que le watt de la jambe. Donc, pour répondre à ta question, bien sûr qu'il faut faire d'autres sports. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, le combo ski de fond, course à pied, c'est génial pour ceux qui ont la chance d'être dans des pays de neige. Vélo, course à pied, c'est excellent, surtout si tu as la chance d'avoir des pentes et de travailler en danseuse. Moi, je fais énormément de vélo. Je suis allée à Venise en vélo, j'ai fait la marmotte. Et dès que j'avais vraiment un problème de tendon, etc., ça, vélo direct. Voilà. Il vaut mieux aller faire des côtes dans ces cas-là. Pour la course à pied, c'est mieux. Ça ressent. Les muscles sont plus similaires. Sinon, de l'aqua jogging. Moi, je trouve ça très bien. Du skier, du roller, de l'aviron, oui, l'aviron, parce que ça travaille beaucoup sur les jambes. Voilà, ça c'est important, tu vois. Je suis en train de me pencher sur tout ce qui est Aerox, parce que c'est le mythe de l'athlète complet. Ça m'intéresse, tu vois.
Ils sont solides,
Et
hein. C'est fort
s'il y a des
en
personnes qui
on
veulent m'envoyer des fichiers Garmin de compète d'Aerox, je suis preneuse, hein.
a reçu
Voilà.
deux champions du monde dans le podcast, Alan Kao et Tom,
Bah,
qu'on
je vais
salue.
regarder ton podcast, le champion.
C'est
Voilà, je vais regarder. Mais
impressionnant ce qu'ils font.
dis-leur s'ils veulent venir chez moi tester leur VO2 max
Ok.
et qu'on fasse leur profil, y compris faire des mesures pendant les compètes, au moins avec le Garmin, ils viennent, hein.
Eh bien, ça
Il n'y a pas
marche,
de souci.
on leur
Voilà.
transmettra les informations. Donc, intéressant de faire un sport croisé. Et juste, je me
Ouais.
permets, s'il y a des gens qui ont eu des problèmes cardiaques, il faut faire attention quand on utilise le membre sup ou non,
Ouais.
il faut quand même faire
Oui,
attention.
oui, oui.
Donc, tu déconseillerais plutôt rameur, ce genre de choses pour des cardiaques?
Oui.
Ok, d'accord, ça
Mes
marche.
jambes.
Bébé, maintenant, on va finir par la partie que tout le monde, je pense, attend. C'est vraiment l'entraînement et les techniques de développement et les tactiques aussi de développement. Vous dites qu'il n'y a pas que AVMA où on peut justement travailler VO2 max. Ça, c'est aussi une idée où il faut travailler que VMA, que VMA, que VMA. Donc, il y a différents pôles. Il y a l'intervalle training court, il y a le très court et il y a le long. Est-ce qu'on pourrait justement rentrer un petit peu spécifiquement dans chacun et expliquer leur intérêt, leur rôle et quand est-ce qu'on va cibler ce type de séance pour nos auditeurs?
Ben, je crois que j'ai déjà pas mal répondu.
Ouais, c'est juste pour
Le
résumer,
très
pour
court.
finir.
Pour finir, ouais, le 15-15, nous, on a beaucoup travaillé sur le 15-15. 15 secondes vite, 15 secondes lent. Mais à la sensation, permet d'être très longtemps, 14-15 minutes à VO2 max, sans souffrir.
Quand on dit 14 minutes, c'est quoi? C'est le temps complet ou c'est avec le
Oui,
temps de récup
oui, oui.
associé? C'est récup plus le temps ou c'est en tout pour
Ouais,
comprendre pour les
on reste à
auditeurs?
VO2 max quasiment.
Ok.
On reste à VO2 max quasiment. Le 30-30,
Par contre, excusez-moi juste Véronique, mais le 15-15, tout le temps la récupération, elle est active. C'est important aussi de le. Ou c'est
Ah oui, on
passif?
relâche à peine.
Voilà,
On
on
relâche
relâche
à
à peine.
peine.
On est
Ouais.
sur du 110 de. À peu près entre 110 et 4
Non, faut
et.
arrêter avec ça.
Ouais, parce que j'ai écouté vos vidéos justement et vous donnez quand même un petit peu des repères en termes de
Bah,
VMA entre.
il faut accélérer 15 secondes.
Donc
Tu
la
vois qu'en 15
consigne, c'est
secondes, on
presque
n'a
à
pas le
bloc.
temps de contrôler sa vitesse à 105% de VMA. Il faut accélérer.
Voilà, la consigne,
Et
c'est à
puis,
bloc presque.
pardon?
La consigne, ça serait quoi? Du coup, on ne parlera pas en termes de VMA, on va parler en termes de consigne de l'entraîneur à
Déjà,
son
la
athlète.
consigne, c'est d'accélérer pendant
Ok.
15 secondes. Puis après,
Ok.
décélérer. De
Ok.
faire ça.
Ok. Ceux qui écoutent, il
Voilà.
y a une petite pyramide avec les mains
Ouais,
de
les mains.
Véronique. Ok,
Voilà.
super.
Faire tous
Ok.
les intervalles en pyramide, c'est mieux qu'en rectangle.
Ok.
OK? Parce que là, on est tout le temps à VO2 max. Après, on peut faire le 30-30 avec la
Voilà.
pyramide, pareil. Alors, on va accélérer moins fort parce qu'il faut tenir 30 secondes. En fait, il faut se mettre des bips de temps. Voilà. Tu fais ton beeper toutes les 15, toutes les 30. Et puis, tu vas voir, ça se passe. Tu pourras regarder ta courbe de fréquence cardiaque, elle va rester au plafond, hein. Donc, 30-30, c'est pareil. En un bloc, c'est pas la peine de faire deux séries. En un
Ok.
bloc. Tu fais 20, tu commences par 10 fois 30-30, puis après 12, 15, de semaine en semaine, tu arrives à 20, puis après tu redescends. Et c'est pareil, tu ne mesures pas ce que tu as fait comme distance, et tu regardes après. Tu regardes après sur ton Garmin, tu vois. Tu regardes après sur ton Garmin, ton Polar, ton Coros, ton Suunto, voilà, j'ai dit toutes les marques,
C'est bon.
ton
Pas
décagement.
de conflit d'intérêt.
Voilà. Ah non,
Ok.
nous, on est sponsorisé par personne. Et donc, prends le meilleur matos.
Oui, parce que vous
Et
dites qu'il y
comme
a
ça, on est
4
libre.
reps à peu près qui sont sacrifiés au début pour arriver justement
Ah,
à VO2
exactement.
max.
Ouais, tu te souviens des publications. Tout à fait. Ouais, parce qu'on a tout vérifié avec les masques. Donc, le 15-15, le 30-30. Après, tu peux passer sur le 2-2-2, 3-3. Après, tu passes sur le long 10 à 20 minutes de répète. Voilà. tout au-dessus du seuil ventilatoire, tout ce que je viens de dire.
Ok.
Quand tu passes en dessous du seuil ventilatoire, tu commences à pouvoir parler. Là, tu repasses sur les lipides, hein, en partie. Bon, là, c'est les footings, quoi, tu vois.
Ok. Et quel intérêt y aurait, du coup, au niveau. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on fait du très court, quand on fait du court et quand on fait plutôt de l'intervalle long? Sur quoi on va
Dans du
travailler?
très court, on va chercher la capacité à prendre de la force musculaire, parce qu'on a une accélération plus forte, à monter vite en fréquence cardiaque, donc du coup on a moins de déficit d'oxygène, parce que du coup le débit sanguin peut s'ajuster plus rapidement, donc envoyer l'oxygène plus vite et être moins en déficit. Sur le 30-30, c'est pareil, avec un peu moins de composantes de force. On est plus dans le lactate, on va avoir un peu de lactate, mais on a très peu de lactate in fine dans le 30-30 si on le fait bien, mais même si on en a, c'est pas grave. C'est pas au contraire, on s'habitue à en avoir. Et puis après, dans le 3 minutes, on va travailler la composante de volume d'éjection systolique à FC max, donc la capacité à haute fréquence cardiaque d'éjecter beaucoup de sang, donc muscler le cœur. Et puis recycler le lactate dans les 3 minutes de récup. On fait allure confortable, on marche pas non plus, allure de confort. Et puis dans les 2 fois 20 minutes, ça va être le travail à maximum lactate steady state. C'était mon sujet de thèse en 88. J'étais déjà contre l'idée qu'il y avait un seuil lactique 4 millimoles à tout le monde, et qu'en fait, ce qui compte, c'est d'équilibrer les entrées et les sorties de lactate. Donc le maximum lactate steady state est stable. Il y a des gens qui se stabilisent à 8 millimoles. Ça dépend des enzymes, sauf phytokinase, oxydative, etc. Donc dans les 2 fois 20 minutes, c'est-à-dire mon test à l'époque c'était 2 fois 20 minutes, eh bien on va chercher des variations de vitesse qui nous permettent de stabiliser le lactate. Donc on va voir tenir 20 minutes à la vitesse la plus élevée possible.
Bonjour à tous, c'est Pams. Je me permets d'interrompre juste 30 secondes le podcast pour vous présenter mon nouveau livre qui est disponible, Deviens ton coach running, dans lequel j'explique tout sur les mécanismes d'entraînement, la nutrition, la récupération, le renforcement. Il y a même un bilan articulaire où vous allez pouvoir tester et connaître l'état de vos différentes articulations. Je vous mettrai le lien du livre en description et vous avez aussi un coaching offert avec l'achat de ce livre. Il suffit de m'envoyer la preuve d'achat en message sur Instagram et on fait un bilan ensemble, 100% personnalisé, et vous recevez votre programme de course à pied et de renfo. Retour au podcast, toutes les indications seront en description. Merci.
Ok, ben c'est
Deux fois.
bon courage. C'est des belles séances. Et comment on fait pour justement dans une semaine se dire, on en fait combien? On en fait deux, deux max, c'est pas mal.
Deux
On
max.
commence par une, on commence par une, on voit
On peut
comment ça
faire le
évolue.
15-15 et le, on peut faire le 15-15 et le ma maximum lactate steady state 2 fois 20 minutes. Et la semaine d'après, on fait le 30-30 avec une séance. On peut garder le 30-30 et le 15-15, par exemple.
Ok. Et juste pour finir, on a fait un podcast avec Sean, qui est le fondateur de Upside Strength, qui est une chaîne justement où il parle de l'entraînement. Et on a fait un podcast sur la VO2 max qu'on mettra aussi pour les gens s'ils sont intéressés. Et il voulait justement vous poser une question. C'était qu'est-ce qui pour vous est faux encore chez les gens, la croyance au niveau de l'entraînement que vous retrouvez trop autour des athlètes de façon générale? Qu'est-ce qui est surcoté pour vous dans l'entraînement?
La quantité, le volume kilométrique et effectivement la vitesse constante.
Ok, et après il demandait justement sur quoi vous allez travailler sur le futur, mais ça vous me l'avez dit en
Eh
début de
ben,
podcast.
mais c'est bien qu'il me pose la question parce que tu vois, ma réponse de l'instant T est peut-être pas celle d'avant. Ce que je vais travailler sur le futur, c'est de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Pour arriver à réguler sa vitesse de façon spontanée, pour optimiser justement, arriver à avoir une vitesse moyenne plus forte que si on était à vitesse constante. Comment on arrive à s'ajuster? C'est comment on arrive à s'écouter, quoi. Voilà. Et comment entraîner cette faculté-là, surtout. Que moi, ce que j'aime, c'est après travailler son entraînement.
Et ouais, bien sûr.
Donc, tous
Ben
les gens passionnés de VO2, etc., on cherche des gens notamment qui accepteraient de porter des analyseurs sur le marathon. Voilà.
est-ce qu'il y a un lien qu'on pourrait mettre en description pour les gens qui voudraient vous contacter?
Via training, hein.
Ok,
Sur via
directement
training.
sur le
Ouais.
site, il y
Il y
a
a à
un.
nous contacter. Il y a à nous de
Ok.
contacter.
Allez, ouais. Si vous voulez faire des tests, on vous mettra coachs, sur le ouais. lien.
Les coachs qui veulent faire tester leur sportif. Nous, on est là pour aider les coachs. Hein. On n'est ouais. pas doctrinaire, on n'est pas dogmatique. On respecte tout le monde. Voilà, c'est comme je dis à mes élèves, c'est la valeur cardinale, le respect. Nous, tous autant qu'on est, on est des acteurs du mieux courir, mieux faire du sport. Chacun à notre façon et on doit se serrer les coudes. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce podcast. N'hésitez pas à poser vos questions à Véronique en commentaire. Il y a d'ailleurs une chaîne YouTube, on mettra la chaîne en bas. Il y a pas mal de vidéos où elle explique tout.
On compte plus sur les podcasts des autres que.
Ouais, mais il y a quand même de quoi aller.
Par contre, j'ai un appel. Je fais un blog de vulgarisation depuis 2 ans. J'ai monté une association 1901 qui s'appelle l'Association pour la science de l'entraînement personnalisé, la CEP. Et tous les dimanches soir, ça me pourrit bien mon week-end, ça, tiens. Je fais un blog. En plus, je me casse bien la tête. Donc, si vous adhérez, je le donne à tout le monde, je ne voudrais pas le dire, de toute façon. Mais si vous donnez un petit ticket à 20 balles, ça nous aide bien.
Eh bien, super.
À 20 balles pour la vie, vous avez être sûr que vous allez aider pour faire ce blog. Et ça va nous servir à faire un petit peu des vidéos pour la CEP. Voilà.
On mettra tout ça. Mais si, ça sera super. En tout cas, on donnera de la force parce qu'on adore ton travail, Véronique. C'est vraiment un grand plaisir d'être sur le podcast. C'est un honneur pour nous. Et juste, j'avais une dernière question parce qu'on en avait parlé en off. Tu m'avais dit qu'on pouvait tester après sa course, justement, si on avait fait la meilleure course possible par rapport à son entraînement. On n'a pas parlé. C'est quoi ? Est-ce que tu peux justement le dire ?
Voilà. Ouais, on a fait un algo qui te permet de... Parce que souvent, quand on passe la ligne d'arrivée, on est content déjà de passer. Puis, allez, 10 secondes après, on se dit, oh, j'aurais pu mieux faire. Oh là là. Tout ça, on n'est pas content, quoi. Et on se pourrit la vie. Et donc, en fait, je me suis dit, on va faire un algo qui permette de voir si on a optimisé, compte tenu de notre état de forme du jour, on a fait le mieux possible, en fait. Tu vois ? Bon, aux Jeux Olympiques, participer, c'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est gagner. Ça, c'est important. Mais pour le coup, nous, si déjà on a fait le mieux qu'on pouvait, c'est déjà super. Moi, je dis la performance, ça veut dire performer, c'est un mot du vieux français. Accomplir, ça veut dire. Et to perform en anglais, eux, les anglais, ils l'ont repris dans la bonne acception. To perform, c'est réaliser quelque chose, une performance d'acteur, d'arbitral, etc. Et en sport, c'est pareil. Si on fait un marathon, c'est une performance. C'est pas seulement la haute performance, c'est pas forcément le chrono. C'est la façon de faire. C'est pour ça qu'on a fait une app. Et cette app, elle est sur notre site internet, sur notre plateforme. On a la possibilité de tester votre course. Il faut pour ça mettre le point fit ou le point CSV. Dans la babasse et ça vous donne automatiquement la note de réalisation. Okay. Entre audace et optimisation, entre audace, risque et bonne gestion.
Et on va vous mettre pas mal de petits liens en commentaire, n'hésitez pas, vous allez sur le site et vous pourrez tester tout ça. Un grand merci Véronique, on a perdu Vincent bien sûr en cours de podcast pour des raisons techniques, mais c'est pas grave, en tout cas on le retrouvera très vite.
Et bravo Alex. T'avais bien travaillé, hein.
On essaye de
travailler.
Je ne
savais pas ce qui m'attendait comme question, mais je ne voulais pas les savoir d'avance.
Et ouais, je sais, mais pourtant, je t'avais quand même envoyé le plan au dernier moment, mais j'ai vu que tu l'avais pas vu, donc t'as mis. Ouais, je sais. Il y en a qui aiment pas.
C'est comme de courir, tu vas pas t'obliger à courir à 15 à l'heure.
On a bien compris. Ne courez pas à vitesse constante. Voilà, c'était le mot du podcast. Un grand merci, Véronique.
Ne vous obligez à rien. Allez juste prendre. Allez, mettez vos baskets, sortez, puis voilà.
Eh bien, super, merci. Ne pars pas, Véronique, j'appuie sur la fin et on dit au revoir aux auditeurs. À de suite. Ciao, ciao.
Au revoir. Merci.